Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité de venir parler ici. Donc, je suis aussi clinicienne, je ne suis pas biologiste, et je travaille dans un service de réanimation néonatale actuellement, c'est-à-dire qu'on s'occupe des nouveau-nés fragiles qui viennent de naître, qui sont hospitalisés pour des raisons différentes. Ça peut être par exemple une naissance prématurée, des tout petits bébés, ça peut être des enfants à terme qui ont des problèmes respiratoires, infectieux ou autres. Et vous allez voir qu'on a des challenges qui sont différents de ceux des adultes, en plus, des exigences et des besoins qu'on peut avoir. On a aussi beaucoup de limitations techniques. On ne peut pas forcément faire la même chose qu'on fait chez l'adulte, du fait des difficultés techniques, la petite taille des enfants, la physiologie un peu différente. Alors, comment faire défiler les diapos ? C'est bon. Voilà. Je n'ai pas de conflit d'intérêts à déclarer. Quelques-unes de ces diapos viennent aussi d'un cours qui s'appelle cours 2ED sur justement l'utilisation des gaz de sang en réanimation néonatale et aussi des diapos de Daniele De Luca qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui en réanimation pédiatrique et néonatale pour monitorer la fonction respiratoire qui fait quand même une grande partie de notre activité? Y a beaucoup de choses, y compris les gaz de sang, que ce soit les gaz de sang artériel ou capillaire mixte. On a tout ce qui est monitorage non-invasif, par exemple, avec les différentes dispositions, y compris l'échographie, la segmentographie, etc. Et on a récemment eu, du coup, finalement, des recommandations pour la ventilation mécanique des enfants malades. Vous le savez peut-être, mais dans la pédiatrie, on est souvent très, très loin derrière les adultes, surtout pour les nouveau-nés. Ça nous permet, quelque part, de profiter des expériences des adultes, mais, comme je dis, on a aussi nos propres limitations. Donc, il est important aussi d'avoir nos propres recommandations, qui sont en fait finalement venues en 2017, et aussi par le biais de la Société européenne de la réanimation néonatale et pédiatrique. Donc, dans ce papier, on voit qu'on a quand même toute cette batterie d'examens et des possibilités de surveillance à notre disposition, mais qui sont du coup vraiment organisées en forme de pyramide, en fonction de la sévérité de l'enfant. Ça peut être vraiment des gaz de sang, que ce soit capillaire pour les moins graves, artériel, la COD expirée, on augmente l'oxygénation par ici, et puis finalement on peut aller jusqu'à du coup l'échographie au lit de malade qui est de plus en plus utilisée. On a aussi par ces recommandations aussi quelques recommandations qui changent, je pense, pour certains services la façon de pratiquer. C'est-à-dire, il n'est pas recommandé d'utiliser par exemple les gaz veineux pour la mesure de CO2. Ça peut peut-être paraître évident, mais en tout cas, ça c'est quand même toujours aujourd'hui quelque chose qui se fait régulièrement. C'est recommandé d'utiliser les cathéters artériels qui sont en place pour les patients les plus sévères. Mais malheureusement, ça c'est vraiment un vrai challenge technique. Ce n'est pas toujours possible, surtout chez les tout-petits. Il y a une recommandation aussi d'avoir une mesure de la saturation veineuse centrale. Et ça aussi, c'est encore un challenge. Et puis après, finalement, on dit que pour réellement avoir les limitations de saturation, pour pouvoir bien surveiller les patients en détresse respiratoire, il recommande d'utiliser du coup les nouveaux guidelines PALIC pour le SDRA pédiatrique. Donc, le topo, c'est sur le gaz du sang qu'on peut avoir en pédiatrie. C'est vrai qu'on fait surtout les gaz du sang, que ça soit invasive ou non invasive, en réanimation pédiatrique et néonatale, aux urgences, et de temps en temps au lit de malade, dans les services d'hospitalisation ou en pneumologie. Et donc, je veux surtout parler de la réanimation et la surveillance continue. On a à notre disposition la surveillance, on va dire, par les capteurs pour mesurer le CO2 exhalé. Et puis, bien évidemment, le gold standard, c'est les gaz de sang artériel qu'on peut, du coup, ou poser chez le nouveau-né par l'artère ombilicale ou sinon par les artères périphériques, que ce soit la radiale, la fémorale ou éventuellement au niveau du pied. Et finalement, un peu un compromis, on a la possibilité de faire des gaz de sang capillaires. Et le principe, c'est quand même qu'il doit y avoir quand même une artérialisation de ce sang capillaire. Mais bien évidemment, pour être sûr qu'on a des bonnes mesures, il faut qu'on chauffe bien le talon. Il faut que ce prélèvement soit fait dans des conditions qui sont bien respectées. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Même ça, ça peut être quelque chose de simple. Ce n'est pas toujours évident. Et du coup, de toute façon, notre hiérarchie, quand on parle de nouveau-né, c'est tout d'abord, si on a la possibilité d'avoir un cathéter artériel, bien évidemment, c'est ce qu'on va utiliser. Mais en deuxième, on va quand même préférer d'utiliser une mesure transcutanée, surtout là pour l'oxygénation, avant de passer du coup finalement au gaz du sang capillaire artérialisé. Et la raison pour cela, c'est qu'on arrive quand même à avoir une température qui est mieux contrôlée, calibrée du coup à 44 degrés pour l'oxygénation, qui permet d'avoir une mesure plus fiable de la TCPO2. Et donc, qu'est-ce qu'on va mesurer chez un enfant qui est en détresse respiratoire, en détresse vitale? Bien évidemment, on nous intéresse à l'oxygénation, le transport, l'utilisation de l'oxygène par les gaz du sang, donc artériel, éventuellement veineux, capillaire, la CO2 dans le sang, le pH, l'oxygénation par la transcutanée et CO2. Et finalement, on va aller éventuellement, pour les enfants qui sont ventilés avec une ventilation mécanique, et ça c'est quand même la minorité, on peut aussi avoir la CO2 expirée. Et bien sûr, on utilise l'oxymétrie, donc la saturation. On peut avoir une mesure en auto-expiration d'une façon continue, qui sont les petits trucs oranges, que ce soit la saturation, la TCPCO2 ou autre, ou pour les gaz du sang, c'est quand même quelque chose de discontinu, qui nécessite, pour ceux qui n'ont pas de cathéter en place, une effraction cutanée. Alors, la TCPO2 et la TCPCO2, qui sont les deux choses qu'on va regarder avec le gaz du sang transcutané, sont bien évidemment corrélées, mais qui racontent quand même une histoire un tout petit peu différente. Pour mesurer l'oxygénation, ben c'est la TCPO2. Pour la ventilation d'un enfant, la CO2. Ils sont corrélés, mais tous jouent quand même dans un contexte qu'on peut avoir des enfants qui sont par exemple infectés, qui ont une mauvaise hémodynamique, qui peuvent être acides et aussi qui peuvent être tout jeunes avec un hémoglobine fœtale qui est élevé. Donc finalement, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, ça reste un outil très important pour nous dans notre surveillance des patients. La température du capteur qu'on va mettre est quand même importante. Il faut savoir que nos bébés sont souvent très petits, avec une peau très fragile. Donc, la question de température est importante. On ne peut pas, par exemple, laisser un capteur à 44 degrés chez un bébé de 500 grammes pendant 2 heures. On va avoir des brûlures cutanées, on va avoir des problèmes. Rien que la friction avec le capteur est un facteur technique. Comment on a couché l'enfant, il ne faut pas qu'il soit couché dessus, par exemple. Chez un enfant plus grand, avec la peau plus épaisse, bien évidemment, le problème n'est pas le même, mais la fiabilité va peut-être diminuer un tout petit peu avec l'âge. Donc, ce qu'on fait en pratique, c'est que pour mesurer la CO2, on peut garder le capteur à 41 degrés à peu près. Mais pour vraiment avoir une mesure, celle-là, elle va être plutôt ponctuelle, comme on va laisser en place peut-être 15 minutes, une demi-heure, en fonction de besoin. On va recalibrer ce capteur, le mettre à 44 degrés. Je sais qu'il y a d'autres dispositifs qui font ça automatiquement. Mais en tout cas, on va veiller à ce que la température réelle soit à 44 degrés pour être sûr qu'on a une mesure fiable de l'oxygénation. Et ensuite, on va rebaisser ou éventuellement enlever le capteur, le remettre du coup dans un deuxième temps. Donc, c'est pour ça que la mesure continue, ça dépend aussi de l'état de l'enfant. Pour les enfants pédiatriques, c'est-à-dire qui commencent à être plus grands, 1 an, 2 ans, là, on peut le mettre en place et le garder en place plus longtemps, à des températures plus importantes. Donc, on utilise aussi la valeur de la TCPO2 pour calculer l'index d'oxygénation, qui est quand même très important pour nous. En pédiatrie, on utilise beaucoup cet index, comme d'autres index d'oxygénation, mais celui-là, c'est celui-là qui nous permet de voir la sévérité de la détresse respiratoire, de l'hypoxie. On a aujourd'hui, heureusement, des définitions de l'ISRA pédiatrique. C'est relativement récent. Et on a depuis moins d'un an aussi une définition de l'ISRA néonatal, qui est une entité qui est relativement nouvelle pour nous. Et donc, la définition de Montreux pour l'ISRA néonatal, par exemple, il se base sur l'index d'oxygénation. Bien évidemment, si possible sur le gaz de sang artériel, mais si ce n'est pas possible, les auteurs ou les recommandations disent qu'on peut utiliser un gaz de sang transcutané, c'est-à-dire une valeur de TCPO2 avec bien évidemment un capteur qui est bien calibré. Et donc pour vous donner une idée, pour un STRA qui est modéré, c'est un index d'oxygénation de 4 à 8. Quand on dépasse le 8 jusqu'à 16, c'est un STRA qui est modéré. Au-dessus de 16, on est réellement dans un STRA sévère. On utilise aussi cet index d'oxygénation dans notre activité de tout le jour. Par exemple, chez un bébé prématuré, administré du surfactant ou pas, pour une maladie membranialine, si on a un index d'oxygénation qui dépasse le 4, il y a probablement besoin. Chez un enfant qui a une détresse respiratoire, quand on a 10-15, on est réellement dans un contexte un STRA modéré. C'est aussi pour monitorer et voir l'efficacité de notre ventilation, éventuellement changer vers un mode de ventilation moins conventionnel, comme la ventilation à haute fréquence, qui est beaucoup utilisée en pédiatrie et surtout en néonatologie. Au-delà de 20, faut-il pas penser à les non-inhalés? Et au-delà de 30-40, là, il faut réellement commencer à réfléchir à ce qu'il ne faut pas passer à une circulation extracorporelle, l'ECMO, qui n'est pas présente dans tous les centres, ce qui fait vraiment où l'importance d'anticiper pour pouvoir arriver à transférer l'enfant vers un centre qui peut le prendre en charge en connaissant les dangers d'un transport d'un enfant instable. Donc je reviens vers les définitions du coup de STRA néonatal et pédiatrique. C'est tout petit malheureusement, mais en gros ce que je voulais vous montrer c'est que ça soit pour la définition néonatale qui est en vert ici ou pour les guidelines PELIC pour le STRA pédiatrique, ils sont tous basés sur l'index d'oxygénation et du coup, ce qui fait que on a vraiment besoin d'avoir cette valeur. Et là, pour la définition néonatale, comme je vous disais, c'est d'abord, si cet enfant a un cathéter artériel, bien évidemment, il faut mesurer l'oxygénation comme ça, mais parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de limitations et c'est quand même comparé à l'adulte, beaucoup plus rare d'arriver à avoir, c'est-à-dire c'est beaucoup plus rare que les patients aient réellement la possibilité d'avoir ces cathéters artériels. Il est reconnu qu'on peut utiliser les mesures transcutanées pour calculer l'index d'oxygénation. Après, pour les nouveau-nés, on est aussi dans la situation très particulière, on a, surtout pour les tout-petits, l'hémoglobine fœtale. Et comment ils jouent vraiment dans ces définitions de STRA, etc. On sait qu'il faut à peu près 6 mois. L'enfant nouveau-né continue à fabriquer son hémoglobine fœtale jusqu'à à peu près 6 mois. On sait que ce n'est pas la même courbe de dissociation d'oxygène. Donc, c'est aussi des challenges supplémentaires. Et donc, voilà, vous êtes des biologistes, vous connaissez mieux que moi, qu'on mesure la CO2 et l'O2 dans les tissus périphériques qui sont artérialisés un peu par la chaleur et quand on mesure réellement dans le sang, on va dire, dans le sang artériel, on mesure réellement ce qui se passe. Et ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est un problème? Probablement pas, parce que même si on sait que ce n'est pas exactement les mêmes valeurs, ça nous donne quand même beaucoup d'informations sur la perfusion, sur la consommation d'oxygène, sur la pompe cardiaque, sur l'acidose, etc. Ce qu'on utilise aussi beaucoup, par exemple, ça c'est une autre méthode non-invasive, pour on va dire, ce n'est pas une maladie, mais une situation qui est très fréquente chez le nouveau-né, c'est l'ictère, par exemple. Donc l'ictère, plus l'enfant est jeune, plus l'enfant est immature, plus il y a des risques d'avoir un ictère qui peut être sévère avec des conséquences peut-être à long terme. D'où une surveillance qui est systématique, que ce soit dans le service de maternité ou des services d'hospitalisation, de taux de bilirubine. Ça se fait par une méthode du coup cutanée, avec du coup, on sait, une très bonne corrélation linéaire avec les valeurs qu'on trouve au niveau du sérum. Donc c'est la même chose pour les gaz de sang cutané. On sait qu'il y a des situations où on ne va pas avoir des bonnes valeurs, notamment s'il y a une acidose, s'il y a une mauvaise circulation, perfusion, s'il y a une anémie sévère, et si on n'a pas la bonne température, et aussi avec l'augmentation de l'épaisseur de la peau. Et donc, en cas d'infection, on peut avoir un gap plus important, mais c'est notamment peut-être le signe de mauvaise perfusion, donc ça peut être un signe de sepsis. Est-ce qu'on peut se baser sur ça pour bien monitorer? Est-ce qu'on a une perte de chance pour les enfants qui sont peut-être monitorés avec ça au lieu d'avoir des gaz du sang? Là, c'est une étude qui a été publiée en 2016. Ils ont comparé des enfants qui ont été surveillés avec des mesures contenu de gaz transcutané versus le gaz de sang ponctuel, on voit que la seule différence entre les deux cohortes était juste le nombre de gaz du sang. Mais sinon, en termes d'outcome, que ce soit la durée de séjour, ventilation ou autre, les deux cohortes étaient exactement pareilles. Et quand on regarde un tout petit peu ce qui se fait dans le monde de néonatologie, on voit que ce soit des enfants qui sont ventilés ou des enfants qui sont en ventilation non-invasive ou en oxygène, il y a quand même beaucoup de services qu'on va recourir au gaz du sang transcutané, mais avec une utilisation très variable. Vous voyez l'utilisation de température, il n'y a que 15% qui vont aller au 44%, mais aussi, voilà, finalement, pas d'utilisation systématique de gaz du sang, on va dire, invasif par ponction. Ce qui veut dire que c'est un outil qui est bien intéressant pour nous, dans notre pratique de tous les jours. Là, c'est une étude suédoise de 2011 qui montre qu'il y a une bonne corrélation avec les valeurs de TCPO2 et PaO2, avec un peu de variation, pareil pour le PCO2, qui montre, bien évidemment, il y a une variabilité, c'est une corrélation, mais ça reste quand même acceptable pour la prise en charge, et notamment, c'est supérieur à la CO2 exhalée. Là, c'est une étude australienne, ils font beaucoup de transport aérien, donc là, ils ont mesuré la différence, on va dire, avec la CO2 moyenne, que ça soit mesuré par la CO2 expirée, exhalé ou par les transcutes. Et la conclusion des auteurs, c'est que la TCPCO2 est quand même beaucoup plus fiable pour monitorer ces enfants que la CO2 exhalée. Pourquoi c'est tellement important pour nous dans la réanimation néonatale? Bien évidemment, c'est dans la sévérité de la situation, mais c'est aussi pour nous, puisque c'est des enfants qui vont avoir des années, des années, des années devant eux, c'est aussi pour essayer de prévenir des complications qui peuvent arriver, parce que les nouveau-nés prématurés sont particulièrement vulnérables aux changements au niveau de gaz du sang, que ce soit l'hyperoxie, qui peut être délétère, l'hypoxie, l'hypercapnie ou l'hypocapnie. On sait que tout ça, c'est lié avec un plus mauvais devenir chez les bébés plus tard dans la vie. On sait que ils ont très peu de, c'est-à-dire l'autorégulation cérébrale par rapport, par exemple, à CO2 est immature. Donc, il peut y avoir vraiment des changements au niveau du flux vasculaire dans le cerveau en fonction de l'hyperhypoxie. On sait qu'il y a aussi des effets délétères quand il y a une altération des effets d'oxygène, que ce soit pour le poumon, les yeux, le cerveau. Et on sait qu'il y a une toxicité réelle pour plusieurs organes. Et donc, il y a encore plus d'importance, on va dire, chez la personne plus mature, parce qu'il était démontré que, voilà, l'augmentation de la CO2, hypoxie, hyperoxie, tout ça, ça peut avoir vraiment des dégâts au niveau cérébral, par exemple, comme ici, comme on voit ici, malheureusement, des lésions, ce qu'on appelle le coma hyperventriculaire, ou des hémorragies. Donc, encore un facteur de stress, on va dire, dans la prise en charge. Et on sait que le fait, si on arrive à bien manager les gaz du sang, ça permet de réduire le risque de morbidité dans ces populations. On base beaucoup de nos surveillances sur la saturation O2, mais c'est clairement pas assez. Déjà aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est la bonne saturation. Trop d'oxygène, ça veut dire problème de toxicité pour le poumon, pour les yeux, pour le cerveau. Pas assez d'oxygène, il y a plus d'entercolite, il y a plus de mortalité, on va dire. Mais quelle est la bonne saturation? Aujourd'hui, on ne sait pas réellement. On sait aussi qu'on a, comme je vous disais, le fait qu'on ne mesure peut-être pas toujours la même chose avec l'hémoglobine fœtale. On sait que la période qu'on passe dans des zones d'hyperoxie et hypoxie sont aussi très importantes. Et donc, on est vraiment encore dans une situation où on a besoin d'apprendre plus et avoir plus d'outils à notre disposition. Là, par exemple, pour vous montrer, là, c'est des enfants en réanimation néonatale où ils ont simplement une surveillance avec la saturation. Ils ont aussi eu la TCPO2, comme ici. Et on voit que la période vraiment où les enfants sont restés dans les normes qu'on leur a mis, les limites, est clairement mieux quand on a aussi la TCPO2 comparée à la SAT uniquement. Voilà, je vous ai dit qu'on a aussi le challenge de l'hémoglobine. Et juste un petit graphique pour montrer qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'on mesure. Parce qu'en plus de ça, on a aussi des enfants qui ont un canal artériel qui persiste. Donc, c'est aussi important de savoir où on met le capteur de SAT. Donc, pour prendre quatre cas différents, là, on voit qu'on est entre 88 et 93 sur le saturomètre. Là, c'est en préductal, là, c'est en postductal. Quand on regarde réellement les enfants, quand on regarde réellement ce qui se passe dans le sang, en fonction de s'ils ont été transfusés avant ou pas, c'est-à-dire que le taux d'hémoglobine fœtale change, où est-ce qu'on mesure du coup la saturation, le fait qu'on sait qu'il y a toujours une petite variabilité en fonction de capteurs, on va dire 5% d'erreur par rapport à ce qu'on peut trouver réellement. On voit que... Ah, alors je ne sais pas comment revenir. Bon. Est-ce que c'est possible de revenir sur la diapo d'avant? Merci. Voilà. Et donc, on peut voir là qu'en fonction de l'hémoglobine, donc 8 grammes, 13 grammes, 9 grammes, 14 grammes, ce qu'on regarde réellement en contenu oxygène artériel change vraiment beaucoup. Donc, un enfant qui a été transfusé multiples fois, qui a une saturation à 93, il peut avoir 19 versus un enfant. Donc là, c'est 93-93, 11. Entre les deux qui ont 88% de SAT, on voit finalement qu'il y a une grosse variabilité, presque le double. Donc, on sait aussi que la CO2, le fait d'être exposé à des taux de CO2 élevés, ce qu'on ne va pas bien évidemment capter avec la SAT toute seule, prédispose aussi des complications à long terme. Donc, juste pour montrer, en transport extra-hospitalier, une couveuse de transport, où on a la possibilité aussi d'avoir des mesures, donc du coup... Là, c'est le ventilateur, là, c'est les petits capteurs pour non seulement mesurer la TCP-CO2, mais aussi éventuellement de mesurer le cardiac output en mode non-invasif. Là, c'est une chambre en réanimation d'un enfant qui est réellement malade. C'est un nouveau-né qui a un STRA, on voit qu'il est ventilé à haute fréquence. Ici, on a nos capteurs de TCP-CO2, un IRS, le capteur de SAT, avec en plus, du coup, une mesure non-invasive de cardiac output. Et un scope d'un enfant vraiment qui, là, pour une fois, a, du coup, un gaz de sang, peut avoir la possibilité d'avoir des gaz de sang artériel parce qu'il a une artère, on a la CO2 exhalée. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, là, pour en montrer nos protocoles actuels pour les bébés qui ne vont pas forcément mal. Là, c'est un petit bébé prématuré. La question va être pour lui, est-ce qu'il faut donner du surfactant ou pas? Et s'il a besoin de surfactant, il faut le donner rapidement. Et donc, du coup, les bébés, ils arrivent, ils sont techniqués. Et au bout de la première heure de vie, quand ils ont vraiment eu la ventilation non invasive, on va poser le capteur de TCP-CO2, TCPO2. On va laisser en place pendant 15-20 minutes le temps d'avoir des mesures fiables. On va du coup calculer l'index d'oxygénation pour voir si ou non il y a un critère. Et puis on va faire l'échographie pulmonaire et regarder un tout petit peu l'état de ses poumons. Et ensuite, on va le remettre éventuellement si besoin à le 41,5, 42, qui est quand même la mesure plus routinière. Donc nos conclusions, notre mandat à nous. On utilise le monitorage de gaz du sang vraiment avec une approche personnalisée en fonction de la taille de l'enfant, en fonction de la maladie de l'enfant et bien évidemment en fonction de la sévérité du tableau avec une flèche qui augmente. Tous les enfants, on va avoir réellement à l'admission, bien évidemment, la saturation en oxygène, mais en plus, au moins une mesure de TCP-CO2, TCPO2 pendant 15-20 minutes. Ensuite, s'il faut, on fera éventuellement, si l'enfant est en détresse, que ce soit hémodynamique, respiratoire ou autre, infectieux, on mettra du coup, dans la mesure du possible, un cathéter artériel avec des mesures, on va dire, discontinues du coup de gaz artériel. Et finalement, quand on est vraiment dans un contexte de grande sévérité, on mettra aussi, NIRS éventuellement, si on n'a pas de... NIRS et éventuellement du coup mesure échographique et aussi continue de la poudre cardiaque. Merci beaucoup. Je voudrais bien avoir des questions.
Merci beaucoup, madame. On a le temps pour quelques questions.
aucune question. Le monde des bébés n'est pas si étrange. Hein.
Les spécialistes des gaz du sang, là. Très bien.
Bonjour, je suis à Angoulême, à l'hôpital. On reçoit encore, de temps en temps, des gazométries en veineux pour des bébés. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que, dans le cas de la juste prescription, il faudrait revoir avec nos cliniciens?
Merci pour votre question. Je n'ai pas entendu la fin, mais la question est: qu'est-ce qu'on fait avec ces gaz du sang veineux que vous recevez encore? Ben, je pense qu'il faut être patient parce que on a besoin d'un peu de temps d'intégrer les changements et comprendre effectivement l'utilité de différentes méthodes qu'on a à nos dispositions. Il est clair qu'il n'est pas recommandé d'utiliser les gaz du sang veineux dans le cas d'une détresse respiratoire aiguë. Mais je sais que malheureusement pas tous les services ont accès, on va dire par exemple à des gaz de sang artériel, parce que techniquement, on n'arrive pas à le faire, ou bon, c'est difficile. Ou bien, éventuellement, il n'y a pas la possibilité d'avoir les gaz de sang capillaires artériélisés, mais ça dépendra aussi, bien évidemment, de l'âge du patient. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de services qui continuent à envoyer en routine, je dirais, les gaz de sang veineux. Mais ça, c'est plus un changement d'attitude propre, je pense, aux pédiatres. Il faut qu'on arrive à connaître les différences entre les gaz du sang veineux et les gaz de sang artériel ou capillaire, de savoir qu'on a à notre disposition, du coup, les mesures transcutanées pour les enfants les plus petits, au moins. Et trois, avoir les moyens aussi, je pense, d'avancer aussi. Mais ça va venir. Je reste optimiste.
Voilà. Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Intéressante présentation. Merci.